Bonjour François Hesbourg.
Bonjour.
Vous êtes notre invité jusqu'à 9h moins le quart sur France Inter. Vous êtes diplomate, conseiller spécial à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous présidez également le Centre de Politique de Sécurité de Genève et l'International Institute for Strategic Studies de Londres. Nous allons parler du sommet de l'OTAN dans quelques instants. Avant tout, François Hesbourg, Emmanuel Macron à Moscou dimanche pour la finale de la Coupe du Monde de football aux côtés de Vladimir Poutine. Ce n'est pas que du sport.
Ce n'est pas que du sport. Si la finale se joue entre la France et la Croatie, ça ne posera rigoureusement aucun problème. Au contraire, les Français s'en féliciteront, et à juste titre. Et si nous nous trouvons face aux Britanniques, c'est plus compliqué, puisque le Royaume-Uni a un petit contentieux avec la Russie, qui s'appelle Novichok. Cette substance chimique fabriquée en URSS ou en Russie, on ne sait pas trop, et qui a servi à des attentats récemment sur le sol britannique et qui a tué de façon, semble-t-il, inadvertante une personne qui n'y était, entre guillemets, rigoureusement pour rien, il y a encore seulement 3 jours. Et donc, les autorités britanniques, politiques et monarchiques avaient refusé d'être présentes en Russie pendant la Coupe du Monde.
Donc le siège officiel, si je puis dire, sera vide dimanche si c'est l'Angleterre qui dispute la finale de la Coupe du Monde.
Du côté britannique, le siège sera vide et symboliquement, entre guillemets, ça se verra. Et pour Emmanuel Macron, c'est une situation qui, bien sûr, est parfaitement gérable. Il n'est pas difficile d'expliquer pourquoi il est à Moscou, puisque c'est la finale quand même un événement important, populaire. Et les Britanniques feront semblant de l'entendre et de comprendre. Mais ce ne sera pas bon en termes de relations franco-britanniques.
Fondamentalement. Oui, une nouvelle fois, l'Europe de l'Ouest apparaîtra divisée face à Vladimir Poutine. François Hesbourg, je précise une dernière fois, vous aviez soutenu Emmanuel Macron dans sa campagne et rédigé quelques notes pour son équipe de campagne. Aujourd'hui, à Bruxelles, s'ouvre le sommet de l'OTAN. On sait tout le mal que pense Donald Trump de l'Alliance militaire nord-atlantique et d'ailleurs de toutes les organisations internationales, le G7, l'ONU, l'Organisation mondiale du commerce. Donald Trump pense que pour lui, c'est plus facile de rencontrer Vladimir Poutine que de rencontrer ses alliés de l'OTAN. Il bluffe, Donald Trump, il met la pression, il a vraiment des idées très claires derrière ses propos extrêmement agressifs.
Alors, il faut séparer dans l'analyse la tactique et la stratégie. Au plan tactique, effectivement, Trump est un type fantasque, capricieux, certains diraient même frivole. Et donc, il n'est pas toujours très facile de comprendre ce qu'il est en train d'essayer de faire avec des coups de bluff qui sont assez facilement éventés, qui ne se passent pas toujours très bien. Cela d'ailleurs explique pourquoi son empire immobilier a fait faillite plusieurs fois au cours des dernières décennies.
Mais il a une cohérence. Et là, c'est la stratégie.
Au plan stratégique, il a une vision extrêmement claire de ce que doivent être les relations des États-Unis avec le monde extérieur, et ces relations doivent être placées sous le signe du rapport de force strictement bilatéral. Il part du principe que les États-Unis sont plus forts que n'importe quel autre pays pris individuellement, ce qui n'est peut-être pas faux au moment où nous parlons. Et donc, tout réseau d'alliances permanentes, toute règle du jeu codifiée est pour lui à proscrire. Il va essayer de détruire le G7 et il semblerait qu'il ait les mêmes dispositions vis-à-vis de l'Alliance Atlantique et bien entendu l'Union Européenne à laquelle bien sûr les Américains n'appartiennent pas est pour lui un ennemi. Il traite d'ailleurs beaucoup mieux ses adversaires ou ses non-alliés comme le président russe, le président chinois, le président nord-coréen, beaucoup mieux que ses alliés. Il n'a jamais un mot désagréable à dire sur les gens qui ne sont pas ses alliés. Par contre, il passe son temps sur Twitter à dire tout le mal qu'il pense de l'Allemagne, du Royaume-Uni, parfois de la France.
Donald Trump a un levier formidable pour faire craquer l'OTAN, c'est de dire « Nous, les Américains, nous payons beaucoup trop et vous, vous ne mettez pas au pot ». Vous pouvez nous rappeler les grands chiffres, alors, les quelques équilibres, François Esbon ?
Alors, c'est un élément d'argumentation qui n'est d'ailleurs pas propre à Trump. Ça fait des dizaines d'années que les gouvernements successifs américains
disent... Obama disait la même chose.
Voilà, hein. qu'il faut en faire plus. Alors, sur le papier, ça a l'air très fort parce que les États-Unis dépensent... un peu moins de 4% de leur produit intérieur brut pour la défense, alors que l'Allemagne en dépense à peu près 1,5%.
Et en valeur absolue, c'est des différences considérables.
Non, bien sûr, en valeur absolue, c'est normal, puisque aucun pays européen n'a la taille économique des États-Unis. Mais si on y regarde de plus près, dans le budget militaire américain, il y a moins de 10% du budget militaire américain, moins d'un dixième, qui sert à la défense de l'Europe. Le gros du budget militaire américain sert à s'occuper du Pacifique, de l'Asie, du Moyen-Orient, de l'Afrique et bien sûr du territoire américain, hémisphère nord, hémisphère sud. Et autrement dit, l'argument n'est pas aussi fort qu'il peut y paraître. Mais ce n'est pas ça l'argument principal de Donald Trump. L'argument principal de Donald Trump, c'est de dire si vous ne tenez pas à carreau et en matière de budget de défense, vous allez devoir payer au plan du commerce international. Il lit les deux sujets.
Il est dans le deal, il est dans la négociation.
Il est
inamical.
Il est dans la négociation totalement inamicale. Et il est dans la déstructuration à la fois du régime du commerce international et du régime des alliances de sécurité. C'est un nouveau monde, c'est le retour au monde d'avant 1945. Certains diraient c'est un retour du 19e siècle, je ne sais pas. Mais le réseau de normes internationales et le réseau d'alliances bâti après la Deuxième Guerre mondiale, pour lui, c'est à proscrire. C'est ça qui est en train de se jouer. Les histoires de chiffres sur le budget de défense, ça ne fait partie. C'est la mousse des choses dont il se sert pour créer l'atmosphère qui règne à l'heure actuelle.
François Esbourg, on parle beaucoup du problème Trump, mais il y a aussi un problème turc au sein de l'OTAN. La Turquie d'Erdogan est membre de l'OTAN ?
La Turquie est membre de l'OTAN depuis 1951 et c'est à la fois un membre très important et un membre très compliqué. Très important, il suffit de regarder une carte, hein, c'est la jonction entre l'Europe et le Moyen-Orient, c'est la jonction entre le monde slave au nord et le monde musulman au sud, et ainsi de suite.
Deuxième armée de l'OTAN.
Et la deuxième armée, la première armée en fait de l'espace européen, eurasiatique. C'est quelque chose donc de très important et très compliqué puisque la Turquie n'a que très rarement été une démocratie parfaite au cours des dernières décennies. Il n'y a pas que M. Erdogan qui pose problème de ce point de vue-là. Et compliqué aussi parce que la Turquie poursuit aussi ses propres objectifs stratégiques. Donc la question est du maintien de la Turquie dans l'OTAN est posée par certains. Moi, je n'exclus pas qu'on puisse se trouver face à une crise, j'allais dire turco-otanienne, au train où vont les choses.
Dès demain à Bruxelles, ou ce serait
non,
plus
non,
long
non, non, pas, pas dans l'immédiat. Non, pas dans l'immédiat, parce que dans le très très court terme, les Américains et leurs partenaires européens en Syrie ont plutôt tendance à mettre la pédale douce, en ce moment, au soutien aux communistes kurdes, ce qu'on appelle le PKK, et que nous avions soutenu pendant la phase de lutte contre Daesh. Maintenant que Daesh paraît être en très mauvaise posture, et on lève un peu le pied, ne serait-ce que pour effectivement éviter de se trouver en confrontation totale avec la Turquie.
François Esbourg est avec nous sur France Inter.
France Inter, le 6-9 de l'été. Intervenez.
Vous intervenez au 01 45 24 7000 et sur franceinter.fr. François Esbourg, question de Nicolas qui nous attend au standard. Bonjour Nicolas.
Oui, bonjour.
On écoute votre question.
Question toute simple. L'OTAN étant une machine initialement créée pour favoriser les intérêts américains et anglo-saxons, ben, cette fameuse phrase qui disait que les Anglais étaient le cheval de Troie des Américains en Europe, dans la mesure où, ça y est, le travail de déstabilisation de l'Europe est totalement accompli, quel est l'intérêt de la France de rester dans une organisation qui finalement ne sert que ses intérêts ?
Merci beaucoup pour votre question, Nicolas. François Hesbourg, est-ce que la France a intérêt à rester dans l'OTAN ? On se souvient que le général de Gaulle, il y a 52 ans, s'était retiré du commandement intégré. On y est revenu ?
Alors, on est revenu dans les commandements intégrés en 2009, hein, décision du président Sarkozy. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Ben, pour une raison très simple, c'est que à l'encontre de ce qui se passait pendant la guerre froide, où la guerre est restée froide. Et depuis lors, il y a eu toute une série de guerres dans les Balkans, au Moyen-Orient, dans lesquelles l'OTAN est impliquée directement. Et la France se trouvait dans la situation passablement absurde où nos armées participaient aux opérations militaires en Bosnie, au Kosovo, certaines des opérations au Moyen-Orient, la Libye et ainsi de suite, alors que nous ne participions pas à l'élaboration des plans d'opération. Et donc, nous courions des risques sans être en mesure d'élaborer le cadre dans lequel nous allions opérer.
Donc, pour répondre à notre jeune auditeur...
Pour répondre au plan, j'allais dire, militaire, le retour dans l'organisation intégrée faisait sens. Mais sa question est plus large. Sa question est, est-ce qu'il est bon qu'il y ait une alliance euro-américaine, hein ? En grosso modo, ben voilà, l'OTAN, c'est les Américains, la guerre froide est terminée, on n'a plus besoin des Américains.
Une alliance transatlantique.
Voilà, est-ce qu'on a besoin d'une alliance transatlantique ? Alors, à ça, deux réactions. La première, ce ne sont pas les Américains qui ont demandé à créer l'OTAN. Ce sont les Français et les Britanniques, en 47-48, qui ont demandé à ce qu'on crée l'OTAN, parce que le plan Marshall avait très sérieusement indisposé le maréchal Staline, et qui avait d'ailleurs fait le blocus de Berlin. On était au bord de la Troisième Guerre mondiale. Nous avions besoin d'être défendus par les Américains. Et les Américains ont accepté de créer une alliance militaire à cette époque-là. C'est d'ailleurs ce qui défrise, si je puis employer ce mot, Trump. En ce moment,
qui décoiffe
le chevelu américain. Et lui, sa vision du monde, c'est un monde dans lequel les États-Unis s'occupent seulement de leurs affaires directes et ne sont pas liés par une alliance de défense. Donc, en quelque sorte, Trump est en train de répondre à Nicolas, en train de dire
auditeur.
Non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'une alliance transatlantique.
Mais François Hesbourg, est-ce qu'il faut s'accrocher aux structures ? Est-ce que l'OTAN est un totem indépassable ? Est-ce qu'il vaut mieux pas penser d'abord aux enjeux, aux menaces, aux défis, par exemple le terrorisme, et ensuite peut-être faire évoluer les traités ?
Alors, les traités, ils sont extrêmement flexibles et adaptables. C'est pas là où il y a le problème. Hein. Le problème, c'est effectivement... Qu'est-ce que l'Europe doit pouvoir faire et comment pouvons-nous exercer notre libre arbitre ? Et il est un fait que Trump nous interpelle en disant « Vous ne pourrez plus compter sur nous, demerden Sie sich ».
En bon allemand.
Pour parler un franco-allemand. Donc, en quelque sorte, il nous met au défi de faire l'Europe de la défense.
Mais pour ça, il faut faire l'Europe de la diplomatie, il faut des buts de guerre.
Il faut des buts, il faut des buts de paix et il faut des buts de guerre. Il faut que la France et l'Allemagne, puisque ce sont les deux pays principaux de l'Europe continentale, se mettent d'accord sur l'art et la manière d'assurer notre défense et notre diplomatie. On en est, hélas, encore assez loin. Le président Macron souligne à l'envi que la culture stratégique française et la culture stratégique allemande ne sont pas exactement les mêmes. Mais l'histoire étant passée par là.
Mais non seulement Emmanuel Macron souligne ces différences entre la France et l'Allemagne, mais lui-même, il est très proactif, Emmanuel Macron. Ouais. Vous parliez des relations bilatérales de Trump avec la Corée du Nord, par exemple. Mais la France fait pareil. Il y a des bases françaises en Afrique, il y a des bases françaises aux Émirats Arabes Unis. Emmanuel Macron s'est rendu en Inde et au Pacifique. Il y a un grand axe indo-pacifique qui est en train de se mettre en place. Il y a bien une vie en dehors de l'OTAN. Et là, Emmanuel Macron, il est purement national.
Bien entendu, l'OTAN ne sert qu'à une chose, c'est à assurer la défense et la sécurité de l'espace européen par rapport aux régions qui l'entourent. Et l'OTAN n'a pas une vocation mondiale. Mais il est vrai que nous sommes dans un monde qui est plus proche de celui que cherche à bâtir Trump que dans le monde que les Français et les autres Européens appelaient de leur vœu au cours des années, des décennies passées. Nous, on a toujours souligné le fait qu'il fallait qu'il y ait des institutions multilatérales fortes, il fallait qu'il y ait des alliances d'égaux, qu'il y ait une solidarité basée sur des règles internationales.
On parlait d'une prétendue communauté internationale.
Voilà, et Trump, lui, la communauté internationale, il n'a pas envie de savoir ce que c'est, il n'a pas envie de la voir.
Ça n'existe peut-être pas, d'ailleurs.
Et de fait, Trump opère dans un monde qui est prêt à recevoir ses idées. Je dis hélas, et donc nous aussi, on est obligé de s'adapter à ce monde, on est obligé de chercher des partenariats de rencontres, et c'est ce qu'on est en train de faire, notamment dans l'espace indo-pacifique avec les Indiens, avec les Australiens et ainsi de suite.
C'est justement la question d'Hugo Dumont qui nous a laissé ce message sur franceinter.fr. Chaque État de l'Europe se referme, les frontières repoussent dans l'Union, les organisations, les alliances des uns avec les autres se distendent et les populismes fleurissent. Comment le nouveau monde peut-il arrêter tout cela ?
Ah, ça je ne sais pas. Et la réponse pour les Européens que nous sommes, c'est effectivement à travers l'intégration européenne, c'est à travers la défense des frontières extérieures de l'Union, afin précisément de pouvoir préserver la liberté de mouvement à l'intérieur de l'Union. Et on en est loin, vous le voyez bien avec la crise en Allemagne, la crise politique en Allemagne sur le sujet de l'immigration et les ricochets que ça peut avoir avec l'Italie, l'Autriche et ainsi de suite. Pourtant, c'est la seule voie qui nous soit accessible aujourd'hui. C'est la voie européenne, l'alternative, on la connaît, c'est effectivement celle qui vient d'être décrite, c'est-à-dire la renationalisation, alors que l'histoire nous enseigne que à la sortie, le résultat n'a pas été formidable pour l'Europe au XXe siècle.
Et dans ce contexte, François Hesbourg, Josette nous demande quelles conséquences du Brexit sur les relations entre la France et les États-Unis et plus globalement sur l'Europe et les États-Unis.
Alors, le paradoxe, c'est que le Brexit ouvre à la France un espace plus important dans ses relations bilatérales avec les États-Unis. Trump, d'ailleurs, joue là-dessus. Il lui est arrivé de faire savoir aux Britanniques qu'il fallait faire attention parce que s'il ne faisait pas des efforts pour être plus proche des États-Unis, c'est vers la France qu'irait l'Amérique. Ne nous leurrons pas, Trump cherche tout simplement à instrumentaliser nos divisions. La réponse, c'est le renforcement du bilatéral franco-britannique. Je viens du bilatéral parce que les affaires des défenses entre la France et le Royaume-Uni se passent essentiellement en dehors des institutions de l'Union européenne.
Ça marche plutôt pas mal d'ailleurs.
Et ça marche plutôt pas mal. Ça s'appelle les accords de Lancaster House. Ils ont été conclus il y a une petite dizaine d'années, du temps de Sarkozy. Et comme ces accords ont été placés en dehors du champ de l'Union, le Brexit ne les affecte que de façon indirecte.
Comme donc, les accords du Touquet, par exemple.
Les accords du Touquet, ça permet, pour le coup, de limiter la casse, par ailleurs importante, que crée le Brexit. Parce qu'évidemment, ça ne renforce pas l'Union que de perdre un membre important, et ça ne renforce évidemment encore moins le Royaume-Uni, qui se trouve livré au flot du grand large, flots qui ne leur sont pas aujourd'hui favorables. Trump regarde avec un certain mépris la façon dont Mme May essaye de rechercher ses bonnes grâces.
D'ailleurs, il regarde avec beaucoup de mépris toutes les femmes dirigeantes. Hein. C'est la même cas avec Angela Merkel.
Les relations avec Angela Merkel, les relations avec Theresa May sont parfaitement exécrables, mais nous savons ce que Donald Trump pense des femmes en général. Hein.
Question de Baptiste à Villeurbanne, qui écoute France Inter et qui nous demande pourquoi avons-nous si peur de l'Amérique de Trump ? Vu la faiblesse psychologique du personnage, pourquoi exprimer nos peurs ?
Alors, c'est une très bonne question. Et le personnage est a de vraies faiblesses, elles sont évidentes, hein, le mot est assez juste, mais il n'est pas seulement cet homme capricieux et fantasque que l'on connaît au quotidien, c'est aussi un homme qui a une vision du monde qui, elle, n'est pas du tout fantasque, qui est très constante. Vous pouvez regarder ses déclarations depuis le début des années 80-85, il y a une constance dans ce qu'il recherche, et ce qu'il recherche, c'est un monde sans règles, c'est la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort.
Il faisait pareil quand il ouvrait des casinos ou des hôtels à New York.
Absolument, et il prenait même des publicités payantes dans les journaux pour dire ce qu'il pensait de l'OTAN, ou du libre-échange, ou de l'immigration, ou que sais-je. Donc c'est un homme qui n'a jamais cessé de s'exprimer sur toute une série de sujets. Et sur le sujet des règles internationales et des alliances, il a été d'une parfaite constance. Il a une vision et il s'inscrit dans cette vision. Il a un programme, il exécute son programme.
François Hesbourg, dernière question avant de retrouver la revue de presse de Frédéric Pommier. On a parlé de Trump, qui est une menace pour la solidité de l'Union européenne. On parle du Brexit. Est-ce que le vrai risque pour l'Europe, c'est pas le Brexit, mais un éventuel défaut italien ?
C'est le risque du défaut italien est réel, mais je ferai très attention parce que l'Italie est un pays qui a beaucoup plus de résilience qu'on le croit parfois. Et l'Italie, par exemple, au plan financier, a géré ses comptes depuis 20 ans avec une rigueur absolument exemplaire. Ça ne se voit pas au niveau des résultats.
Parce que la dette continue à augmenter.
Non, mais la dette ne baisse pas.
Voilà.
Parce que le PIB italien reste dans les choux. Mais le budget italien, les dépenses italiennes sont extrêmement maîtrisées. Le gouvernement actuel semble avoir fait de l'immigration son cheval de bataille plutôt que la question de la réduction des impôts et de la sortie de la zone euro. Donc je suis...
Moins inquiet.
Je suis inquiet. Hein, je veux dire, comme votre auditeur, en l'occurrence, je suis inquiet. Je crois que les institutions italiennes et les Italiens reposent sur pas mal de bon sens et avec un peu de précaution, y compris de notre côté dans la façon dont nous parlons de l'Italie. Parce que lors de l'affaire de l'Aquarius, on a parlé avec beaucoup de légèreté de l'Italie. Cela dépend aussi un peu de nous. L'Italie doit être respectée.
L'Italie dépend de nous et nous dépendons de l'Italie. Merci beaucoup François Hesbourg d'avoir été l'invité de France Inter. Il est bientôt 9h moins le quart.